BFM Bourse, on refait la séance.
Thierry Gauthier, GS de gestion, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Guillaume.
Salut, Julien Marion, BFMBourse.com. Bonjour. Allez, on va dire bonjour Julien. Bah oui, il fait très jour là encore.
Bonjour Guillaume. Voilà. Bonjour Thierry. Oui, il fait encore très jour.
Oui, le CAC gagne 0,4% ce soir, donc pour terminer la semaine, 8508 points. Vous le sentez bien là, ce deuxième semestre qui démarre Thierry? Vous sentez que ça va être fort pour le CAC 40 ou il va rester en retard sur les autres quand même?
Ah, 8500 points, c'est bien qu'on ait cassé ça. On doit être à plus 6 depuis le début de l'année. Les ratios de valorisation sont pas démentiels, c'est pas donné non plus. J'ai envie de dire que tout peut arriver. C'est la glorieuse incertitude du sport et de la bourse.
Les 9000, vous y croyez ou pas cette année, les 9000 points? On est à plus de 8500 ce soir.
Ça peut, ouais. ça pourrait dire.
Julien, les 9000, d'ici la fin de l'année, vous y croyez, vous les sentez venir?
J'ai un peu du mal, moi.
Pas grand chose, hein. Faudrait qu'on gagne encore 7%, un truc comme ça.
Ouais, une victoire en Coupe du Monde, peut-être?
Ouais, mais du coup, ça fait quoi? Ça fait une performance de 15% sur le, 15-16% ouais. sur l'année, c'est ça? Si je calcule bien, il faut faire des intérêts composés. Il faut pas juste additionner, mais.
Ça voudrait dire qu'on rejoint la performance du Nasdaq. Il reste encore un peu de temps si les résultats sont.
Moins de valeur IA, avec des risques géopolitiques avec Donald Trump.
Ça passerait sûrement par un bon du luxe, comme l'a dit Antoine sur le plateau, je pense, hier ou avant-hier.
Alors
ça passerait par là.
Alors, on aimerait justement qu'il y ait un rebond du luxe. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? C'est la saison de publication qui va bientôt démarrer, effectivement, avec aussi le secteur du luxe. On a une note d'HSBC sur le potentiel du luxe et ce que devraient annoncer les acteurs du luxe, en l'occurrence Julien. Cette note d'HSBC n'est pas super optimiste pour ce que ces groupes-là annonceront du deuxième trimestre.
Je vais être honnête avec vous, elle est optimiste cette note, elle est optimiste sur le second semestre, mais ce qu'elle vous dit par contre sur le deuxième trimestre, c'est qu'on risque d'être quand même dans une légère phase de décélération.
C'est ça. Des résultats du deuxième trimestre qui s'annoncent sans doute ternes a priori, d'après HSBC.
Non, excusez-moi,
une sorte de mollesse ou de léthargie un petit peu, mais comme dit Julien, elle est moins négative que sélective, j'ai envie de dire. Et elle pointe du doigt que la croissance devrait être molle, que les taux de change n'arrangent pas les choses. Oui. Encore que le dollar, dans la dernière séquence, il est repassé de 1,20 à 1,14, donc ça commence à se retourner de ce côté-là. Et puis, est-ce que des valeurs qui se payent 15 fois les bénéfices pour Prada ou 22 fois les bénéfices pour LVMH ou d'autres, est-ce que c'est pas déjà dans les cours? Nous, on pense que si. Et c'est aussi un peu l'avis de la note de HSBC, qui, pour 5 ou 6 valeurs du luxe, a un objectif de cours de 20% supérieur au cours actuel. Et LVMH fait partie de cette liste-là, c'est un peu notre préféré. En dessous de 500 euros, nous, on est plutôt acheteurs sur le titre. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pas si pessimiste.
D'accord, ouais. Deuxième trimestre un peu terne, mais... Pourquoi pas une réaccélération au deuxième semestre? C'est ce que dit HSBC dans cette note sur les publications à venir du luxe.
Oui, justement, je viens de vous la lire. Quelques éléments. Ils vous disent que le deuxième trimestre, la croissance en monnaie comparable des groupes de leur couverture serait à 4,3. On était à 4,9 au premier. Donc, il y a un léger tassement. Par contre, c'est vrai qu'ils sont quand même majoritairement à l'achat sur les valeurs. Il y en a quand même 5 sur lesquelles ils sont à l'achat. Je crois qu'ils en couvrent 10. Donc, c'est quasiment la moitié. Et ils vous rejoignent, Thierry, puisqu'ils sont à l'achat sur LVMH. C'est le second français sur lequel ils sont à l'achat. Ouais.
Gilles a une idée justement sur le potentiel de ce secteur du luxe pour la suite et on a besoin de ce secteur notamment à la Bourse de Paris. Gilles, comment vous voyez son potentiel et puis quelle valeur en offre le plus de potentiel?
Alors en termes de configuration technique, malheureusement, c'est pas sur la Bourse de Paris que j'ai trouvé le meilleur potentiel, c'est plus en Suisse avec Richemont. Lorsqu'il y a des périodes difficiles sur un secteur, moi j'ai tendance à regarder celle qui résiste le mieux et Richemont, elle fait mieux que résister puisqu'elle a marqué un record la semaine dernière. Alors elle est en très légère consolidation depuis, mais le fait d'avoir, je dirais, cette configuration technique toujours très positive malgré une configuration difficile pour le reste du secteur montre qu'il y a une certaine puissance et un très belle orientation. Et donc, moi, c'est vers ce titre que je continuerai à regarder si le luxe devait repartir.
Le CAC à plus 0,4 ce soir. Il y a quand même une grande exception aujourd'hui sur le marché parisien. Alors, c'est une petite valeur, Katana. Katana perd 7,5 en clôture. Un violent incendie a détruit deux bâtiments de production de ces catamarans dans le sud. On y consacre d'ailleurs un article complet sur bfmbourse.com. Katana, moins 7,5. Oui, il n'est pas anecdotique cet incendie qui est lié d'ailleurs à la sécheresse et à la canicule dans le sud de la France sur deux bâtiments de production de catamarans. C'est tout sauf anecdotique, Thierry, pour ce groupe.
Oui, c'est dramatique et tout sauf anecdotique. Sabrina a fait un bel article, comme vous le citez. Et oui, pourquoi c'est pas anecdotique? Notamment, c'est parce que leur best-seller, celui sur le catamaran sur lequel il y avait beaucoup de prises de commandes, le Bali version 5.2, Malheureusement, il était produit dans une de ces deux usines et exclusivement dans l'une de ces deux usines-là. Et du coup, ça va évidemment retarder les livraisons, retarder et compliquer la rentrée de cash, de chiffre d'affaires sur une société qui peinait déjà un petit peu, hein, puisque le cours de bourse depuis 2022, il est passé de 9 euros à 2,10 €. Donc, évidemment, c'est une société qui faisait face aux problématiques qu'on connaît tous, l'incertitude géopolitique, les droits de douane pour les ventes qui se faisaient outre-Atlantique. Et donc voilà, c'est tout simplement dramatique. On compatit là pour les salariés qui ont essayé de sauver les meubles et sauver ce qui pouvait être sauvé, les moules, etc., en plein milieu de la nuit pendant l'incendie. Voilà, après, à qui est-ce que ça peut profiter des drames pareils? Peut-être à la concurrence. Alors, est-ce qu'il faut pas regarder des sociétés comme Beneteau ou Fontaine Pajot, qui se payent 10 ou 11 fois les profits?
Même si c'est pas des catamarans, mais d'accord.
Alors, Fontaine Pajot aussi, vraiment le concurrent pour le coup.
D'accord.
Beneteau un peu moins, parce qu'ils font aussi beaucoup de moteurs, mais voilà.
Oui, article complet, moins 7% ce soir, ce titre Katana. Également, et d'ailleurs, les salariés, c'est vrai, vous le disiez, hein, ils ont été exemplaires, ils ont voulu sauver le matériel, ils ont vraiment agi pour essayer effectivement de sauver ce qui pouvait l'être.
Oui, ils y sont parvenus partiellement, hein, de ce qu'on peut lire dans l'article de Sabrina, donc bravo et courage à eux. Ouais.
Voilà, article complet de Sabrina Sadghi sur notre site bfmbourse.com consacré à Katana, l'une des grosses déceptions aujourd'hui, bien sûr, sur le marché parisien. Il faut suivre aussi Airbus, ça c'est vous, Julien, qui nous alertait. Airbus, alors il y a des livraisons du mois de juin qui ont été annoncées par Bloomberg, en tout cas, et puis une date à venir, le 21 juillet sera une date importante pour Airbus. On en parle aujourd'hui parce qu'on aime bien apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qui va se passer le 21 juillet?
Oui, alors comme vous évoquez, les informations de Bloomberg, c'est 90 avions qui auraient été livrés autour de 90 en juin. C'est important parce qu'il y a un énorme step qui est franchi. On était à 80 en mai, 90 avions Airbus livrés en juin. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça depuis que je suis la valeur. C'était depuis bien quand même 8 ans, à peu près, voire même plus. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, les livraisons d'avions, c'est ce qui fait le cash. Et ce qui permet de tenir les objectifs financiers. Donc, si cette information venait à être confirmée, on serait beaucoup davantage rassuré sur atteindre les objectifs. Un analyste qu'on a interrogé nous dit, habituellement, le premier semestre, c'est autour de 42% de l'objectif annuel. Là, il serait à 40%. Donc, ils auraient rattrapé le retard qu'ils avaient perdu, accumulé en début d'année. Et donc là, on aura donc les chiffres de ces livraisons dans les prochains jours. Et comme vous l'avez évoqué, le 21 juillet, il y aura une date cruciale pour Airbus. Bon, ce sera le salon de Farnborough, un des grands salons que vous avez. Il y a le Bourget, il y a Dubaï et il y a Farnborough. Et là, ils vont faire un business update. Et qu'est-ce que nous dit Bank of America? Bank of America qui a fait d'Airbus l'une de ses grandes idées d'investissement, il y a quelques valeurs comme ça, pour le troisième trimestre. Cet événement, ce sera un catalyseur. Pourquoi? Parce que d'après la banque, ils vont donner des informations à moyen terme sur ce qu'ils visent dans la division d'aéronautique civile, notamment un résultat opérationnel qui pourrait être de 10 milliards d'euros. Et ce qu'ils vous disent, c'est que ce n'est même pas tant la cible de 10 milliards qui est importante à moyen terme, mais le cadre, comment ils expliquent qu'ils vont y arriver. Parce que finalement, il y a assez peu de granularité sur la perspective à moyen terme. C'est ce qu'ils vous disent. Moi, j'ai utilisé le mot granularité, j'espère que l'auditeur... Et d'avoir ce cadre, ça permettra de désensibiliser les livraisons qu'on garde chaque mois, Airbus, et donc de donner plus de confiance aux investisseurs pour se projeter. D'où le fait que c'est un catalyseur.
D'accord. 21 juillet, donc, le business update du groupe Airbus. Mmh. Vous suivrez ça. Vous aimez bien cette valeur Airbus, Thierry?
Oui, on aime bien. Alors, elle a bien remonté, donc on n'en achète plus sur ces cours-là.
D'accord. Vous l'aimez bien, les profits.
On en a un petit peu en fond de portefeuille, mais c'est pas celle sur laquelle on est le plus exposé ou surexposé.
Gilles est avec nous toujours, boursicoté.com. Est-ce que vous l'aimez beaucoup, cette valeur Airbus, ou un peu comme Thierry, où il faut dire oui, parce que sur Airbus, tout le monde est un peu poli, mais bon, oui, de loin, quoi.
Non, il y a une belle orientation d'un point de vue technique. On n'est pas loin de niveaux qui pourraient provoquer des accélérations haussières, notamment si on repassait au-delà des 213 euros. Et puis, lorsque l'on voit la hausse que nous avons eue cette semaine dans un contexte où l'euro-dollar est remonté, hein, suite à la baisse du dollar, on sait que l'euro-dollar a une influence assez forte sur cette valeur. Eh bien, on se dit que là aussi, il y a une bonne dynamique. Et si on revenait ici sur la zone 213-217, eh bien, on pourrait marquer de nouveaux records et donc confirmer la dynamique haussière que nous avons sur la tendance moyen et long terme.
Merci Gilles de nous avoir accompagné ce soir. Gilles Santacreux, boursicoté.com. Rheinmetall, ce soir, perd encore 2%. Rheinmetall qui chiffre l'impact de l'annulation du programme de frégates par l'Allemagne à combien? Le chiffre 12,8 milliards d'euros. Voilà, c'est dommage, un manque à gagner de 12,8 milliards. En tout cas, il passe à côté de 12,8 milliards pour être précis. C'est ainsi, c'est par ce chiffre que Rheinmetall chiffre l'impact de l'annulation du programme. Dommage pour eux. Et le problème, c'est que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que le secteur de la défense, ça fait maintenant des semaines et des mois qu'il nous déçoit. Alors que c'était le grand pari de l'année dernière et qu'on se disait pour 2026, il faut continuer sur la défense. Ça vient ajouter là de la pression. Quelles sont les causes profondes de cette sous-performance désormais du secteur de la défense? Est-ce que vous regardez ce secteur avec méfiance ou en vous disant il y a un vrai point d'entrée désormais parce que quand même les États continuent d'y investir? Thierry.
Un petit peu comme sur le luxe avec sélectivité. En fait, il y a 4-5 ans, on nous disait que le luxe qui se payait 35 ou 40 fois, c'était une situation qui allait perdurer ad vitam aeternam. Et ben, on nous a raconté la même histoire sur la défense l'année dernière. Et nous, on alertait un petit peu sur des niveaux de valo qui, à 35 ou 40 fois les profits, étaient trop élevés. Donc, en fait, la cause du repli et de la défiance d'aujourd'hui, c'est simplement l'emballement qui a été trop fort l'an passé et rien d'autre. Et on le voit, il y a des symptômes. Hein, quand CSG, le tchécoslovaque, le spécialiste de la défense tchécoslovaque, s'introduit en janvier, le dirigeant, en fait, excusez-moi l'expression, il passe à la caisse parce que tout le monde est très acheteur du secteur et que les ratios de valorisation sont très bons. Derrière, les souscripteurs à l'introduction, ils ont perdu, le cours a été divisé par deux ou plus que par deux, je crois. KNDS, la famille Wegmann, à 18 oui. ou 20 milliards sur des niveaux de valo de la défense en début d'année, elle était vendeuse. Hein, on lui a dit que c'était 12 milliards et demi. Elle est moins vendeuse et puis il y a moins d'acheteurs en face et pour Rheinmetall.
Et ils reportent l'introduction en bourse. Hein,
ouais. Et l'introduction en bourse est reportée. Alors est-ce qu'il y a un sujet de Rheinmetall derrière, peut-être, qui pourrait être le.
Oui, parce qu'ils disent les conditions de marché nous poussent à reporter l'introduction en bourse. Les conditions de marché sont tout à fait normales. C'est juste qu'ils n'arrivent pas
elles
à valoriser comme ils aimeraient.
Sauf qu'elles ne sont plus les mêmes qu'en janvier dernier, quand CSG, par exemple, s'est introduit. Ouais. Ce n'est plus les mêmes ratios de valo et c'est moins intéressant pour les vendeurs. Parce que sur KNDS, c'était que de la cession. Il n'y avait pas d'augmentation de capital et d'argent frais à porter. Parce qu'il n'y a pas alors bien sûr qu'il y a des projets, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas un besoin de cash impérial. Et Rheinmetall, à 30 fois les profits, il faut qu'il y ait de la croissance. Leur est tombé dessus l'annulation du contrat des frégates allemandes. Et du coup, on s'aperçoit que à ces niveaux de valorisation, les titres sont un peu chers.
Julien.
Alors, il faut voir qu'il y a des racines profondes. Il y a les
sous-performance du secteur de la défense.
Les interrogations budgétaires sur les États déjà, en fait. Si vous voulez, il y a quand même eu des déclarations qui sont pas top. Déjà, si vous voulez, au Royaume-Uni, il y a eu le ministre de la Défense qui a démissionné. En Italie, il y a quand même Giorgia Meloni qui essaye un petit peu de contester les cibles de l'OTAN. Et on a quand même des craintes sur le budget de la défense en France. Et maintenant, vous évoquez le cas de KNDS et de Rheinmetall. Il faut voir que Rheinmetall, c'est le comparable le plus proche de KNDS. Pourquoi ? Parce qu'ils font la défense terrestre. Et ce qui se passe, en fait, c'est que tout ce sous-segment de la défense terrestre, il est sous pression parce qu'il y a des interrogations sur la pertinence du portefeuille de produits. Aujourd'hui, vous avez des acteurs, notamment américains, qui font des drones terrestres et qui font tout un tas de produits automatisés, plus modernes. Et donc, le marché se dit, mais est-ce que dans les budgets qui vont être alloués, on ne va pas changer l'orientation? On ne va pas aller davantage vers ces nouveaux acteurs? Alors, c'est des craintes un peu exagérées parce que le marché de la défense européenne, il est très fragmenté, contrairement à l'Europe, aux États-Unis, pardon. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut voir, et ça, c'est Jeffries qui le dit, c'est que ces craintes, de ne pas avoir les bons portefeuilles produits, elles ont surtout tapé sur les groupes de défense terrestre. Et c'est pour ça que Rheinmetall, finalement, c'est peut-être la valeur qui chute le plus. Moi, j'ai calculé moins 44% depuis leur plus haut de l'année.
C'est
plus
ça,
que Thalès, plus que les autres. Et c'est pour ça qu'AMDS reporte son introduction en bourse. C'est le comparable. Et les investisseurs, ils vous disent, regardez ce que fait Rheinmetall. Vous croyez vraiment que vous valez ça?
Des acteurs de la guerre à l'ancienne, un petit peu. C'est vrai que Julien a raison et ça peut être un sujet de défiance. Alors que les acteurs de des guerres nouvelles, Exail, on voit qu'il y a un sujet de rachat par Safran. Parce que, on est sur d'autres manières de faire la guerre aujourd'hui.
Il y a deux salles, deux ambiances au sein d'un même secteur, là, dans la défense. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage aussi, c'est vrai, du report de l'introduction en bourse de KNDS, qui est un des événements de la semaine. Thierry Gauthier, GSD Gestion, Julien Marion, BFMBourse.com.